Donc on va commencer avec Jean-Philippe Platon par une illustration à partir d'une situation clinique pour essayer d'illustrer la nécessité d'une réflexion globale et l'importance d'avoir une vision des choses pas strictement médico-technique, comme on peut l'avoir dans les tasses. Le titre de l'intervention, c'est comment décider dans les situations complexes. Alors, tout d'abord, un élément de contexte qui explique un petit peu les choses, la réalité de l'hôpital Saint-Louis et de la phase Verlaine dans l'hôpital Saint-Louis. L'hôpital Saint-Louis est un hôpital aux spécialités de pointe, qui est très réputé sur l'hémato, cancérologie, historiquement un grand temple de la dermatologie, et c'est aussi un hôpital de proximité situé dans un bassin de population où la population a beaucoup de caractéristiques de précarité et avec une forte population immigrée. C'est donc à ce choc qu'on va faire face dans la consultation vers l'aide. Et donc, forcément lié à ce contexte médical, on est amené à prendre en charge des pathologies lourdes, de l'hématologie, de la cancérologie, de la dermatologie axée sur l'oncologie, des problématiques d'insuffisance rénale, de dialyse, alors qu'on est dans un système contraint, avec une dialyse avec un nombre de points de priorité, et puis bien sûr des hépatites, des essais et des infections par le VIH. Et donc on a été amené à développer une expertise de la prise en charge ambulatoire des situations qui sont parfois extrêmement complexes.
Donc, pour illustrer nos propos, on a décidé de vous montrer un cas concret. Donc, on va vous parler d'une femme originaire du Burkina Faso qui nous a été adressée pour un cancer du col de l'utérus qui était déjà traité au Ghana en fin 2009 et par radiothérapie et curithérapie ainsi que chimiothérapie. Donc, elle avait eu un protocole de soins assez complet. Et elle est venue en France en février 2010. Elle a vendu tous ses biens pour venir en France, pensant que là, on allait pouvoir la guérir et la traiter complètement. Donc, elle est venue avec un visa de 22 jours, ce qui ne permettait évidemment pas de mettre en place quelques systèmes d'accès aux droits. Elle a laissé ses enfants, elle avait 4 enfants, elle les a laissés à sa belle famille, le dernier avait 16 ans, qui était quand même déjà des bons enfants, et cette femme était veuve depuis 10 ans. Elle avait comme coordonnées un numéro de téléphone d'une cousine, des cousines entre guillemets, qu'elle n'avait pas contacté avant de partir, et donc quand elle est arrivée en France, elle a téléphoné à son numéro, personne ne répondait, elle a fait plusieurs fois, mais sans réponse. Et ensuite, après, elle a perdu le numéro. Donc, même s'il y avait une chance de pouvoir la contacter, elle a perdu le numéro. Donc, elle a erré plusieurs jours dans Paris, et elle a rencontré une compatriote qui l'a adressée au SAMU social et à Emmaüs, où là, elle a pu être prise en charge au niveau de l'hébergement, et elle nous a été adressée après à la PASS. Donc, à son arrivée à la PASS Verlaine, à Saint-Louis, elle était donc sans droit et sans possibilité de droit immédiat en tout cas.
Voilà, on revient sur le côté médical. Donc, alors, en prenant les informations qu'on a récupérées un petit peu par la suite, on comprend bien, je vais les donner dès maintenant. Elle avait déjà réalisé des examens au Burkina Faso. Et elle était traitée au Ghana, donc on avait des éléments concernant une tumeur du col de l'utérus déjà évoluée avec une infiltration à distance loncorégionale et voire probablement à distance, puisqu'il a été signifié dans les comptes rendus la présence d'une métastase au niveau du foie. Et on a récupéré donc le compte rendu d'hospitalisation à l'hôpital d'Accra au Ghana, qui spécifiait l'existence d'un cancer au stade 4, qui est très évolué, avec des métastases pulmonaires. Mais enfin, cancer métastatique, il avait très bien expliqué qu'elle a eu un traitement apparemment conventionnel avec de la radiothérapie et une chimiothérapie qu'elle venait d'ailleurs, donc, vous voyez, fin janvier de terminer. Et il était clairement établi sur le compte rendu que le pronostic était globalement très mauvais. Mais cependant, comme on le constate, et vous pouvez le constater aussi certainement, on a beaucoup de gens qui viennent de pays étrangers, en particulier d'Afrique subsaharienne, qui pensent qu'en France, on va pouvoir proposer un traitement curatif, même si a été annoncé comme très défavorable. Alors, très rapidement, l'examen clinique, en fait, d'une part, des patients avaient des lésions cutanées très importantes, douloureuses, et qui étaient en fait séquelaires de la radiothérapie. Évidemment, c'était une radiothérapie à l'ancienne, on peut dire, avec du cobalt, ce qu'on ne fait plus depuis longtemps en France, et c'est ce qui expliquait l'intensité, la sévérité de ces lésions, pour lesquelles, en fait, on a produit des soins locaux, tout simplement. Par contre, on peut dire qu'elle était localement bien éradiquée, parce qu'elle n'avait plus de résidus tumorales, de cancer localement. Mais par contre, elle se plaignait aussi d'une douleur thoracique avec une radiation en ceinture, comme ça, qui était au premier plan, pour lesquelles on n'avait pas d'explication. Alors l'explication, hélas, a été confirmée par les explorations. Une scintigraphie osseuse a mis en évidence l'existence de au moins deux localisations métastatiques osseuses au niveau du sternum et au niveau de la vertèbre L1, confirmée par un scanner avec cette localisation osseuse, hein, mais pas épidurale, donc pas de compression et de risque neurologique immédiat. Donc au total, le cancer de l'utérus est guéri localement, entre guillemets, mais il y a des métastases osseuses. Donc en fait, on est face à un cancer au stade non curatif. Et puis, la plainte également au second plan, c'est ces lésions séquelaires de la radiothérapie avec cette atteinte cutanée douloureuse. Puis donc le contexte difficile d'un isolement familial, isolement social, l'absence d'hébergement ou un hébergement instable par le système social et Emmaüs, la question c'est de savoir que faire. Alors le pronostic médical évidemment c'est l'élément essentiel, le pronostic médical nous a été donné par les oncologues, on aurait pu tenter une nouvelle cure de chimiothérapie comme elle avait reçu déjà, mais le bénéfice attendu était peut-être un mois ou deux mois de survie. Donc on a pris en compte cet élément dans la prise de décision.
Donc sur Saint-Louis, depuis, je suis un peu perdue dans le temps, je pense que ça fait à peu près un an et demi, deux ans, on travaille sur des réunions de concertation pluridisciplinaires, pluriprofessionnelles, médico-sociales et éthiques. Donc c'est un groupe de travail de différents partenaires de Saint-Louis, dont des médecins généralistes internistes de la PAS, des oncologues, des urologues, enfin, des différentes spécialités de l'hôpital Saint-Louis, les assistants sociaux des services qui sont concernés par le problème de la patiente, en l'occurrence là, c'était l'assistante sociale du service d'oncologie, et puis les assistantes sociales de la PAS, puisque Saint-Louis, nous avons deux assistantes sociales sur la PAS. Et dans le, on a aussi une anthropologue et juriste qui interviennent selon les situations, qui ne sont pas là systématiquement pour accepter les psychosociales éthiques, mais qui viennent ponctuellement en cas de besoin. Et dans le cas précis de cette personne, il y a eu un médecin généraliste qui était le médecin d'une des personnes qui l'a accompagnée, et cette personne souhaitait que le généraliste soit là, et également le représentant du culte musulman, puisque c'est important pour elle. Voilà, donc à chacune de ces RCP, lorsque une patiente est hospitalisée ou suivie en consultation, s'il y a besoin, l'équipe qui suit la patiente interpelle Claire pour qu'elle mette en place une RCP, et on essaie de se réunir le plus vite possible, tous ceux qui sont disponibles, pour venir réfléchir sur le cas qui est proposé.
Pour répondre un peu aux questions sur cette organisation. Alors, le point plutôt intéressant aussi qu'on va pouvoir apporter, c'est qu'à partir de ces situations complexes, on s'est dit, mais on ne peut plus réfléchir comme on réfléchit classiquement avec des protocoles, le stade d'organes, etc. On a travaillé avec le groupe de réflexion éthique et on s'est rapproché de d'autres professionnels, et en particulier avec Laurence Leveux qui travaille ici avec le GP et Catherine Weiss qui est anthropologue, qui nous ont aidés à développer un nouvel outil de prise de décision et la grille de décision multidimensionnelle. Donc l'idée, c'est d'intégrer dans la prise de décision non seulement les éléments médicaux, ça va de soi, mais prendre en compte les éléments extra-médicaux. Et c'est aussi proposer un outil qui soit utilisable dans ces situations où il faut vraiment qu'on pense des choses différemment. l'idée, c'est de tenter de quantifier la décision. Est-ce que ça sera plutôt en faveur ou en défaveur? Et l'objectif final, c'est de trouver, d'essayer de d'atteindre l'intérêt supérieur de la personne, du patient, et tout en ayant en arrière-pensée de préserver l'intérêt collectif, c'est l'équité face à l'accès aux soins. Et on a été aidé dans ce travail par une subvention qu'on a obtenue à la suite d'un appel d'offres, et on a une subvention de 30 000 euros de la Ligue nationale contre le cancer et de la Fédération hospitalière française de France pour nous aider à développer cet outil. Donc, vous remarquez qu'en fait, voilà, à partir des places, on peut aussi monter des choses qui peuvent avoir une portée potentiellement importante. Voilà. Et rapidement, on pourra en parler en discussion. L'idée de cette grille, c'est de quantifier tous les items qui peuvent participer à la prise de décision. Donc, des critères cliniques, évidemment, on va mettre en avant la probabilité de guérison, la durée prévisible du traitement, etc. Hein, quelqu'un qui veut rentrer au pays et si on planifie un traitement pour une décennie qui va durer un an, 18 mois, il faut avoir cet élément dans la prise de décision. Et puis surtout, des éléments, disons, sociaux et environnementaux. Et en particulier, on a amené nos collègues cancérologues à penser l'importance du contexte social et environnemental, c'est-à-dire, par exemple, tout simplement, ne pas avoir d'hébergement quand on va rentrer dans des cures de chimiothérapie, c'est à prendre en compte pour l'efficacité même du traitement. Donc, c'est tous ces éléments-là qu'on a mis sur le papier en élaborant cette décision. La décision qui a été prise, qui a semblé à tous la meilleure dans la vie de la personne, c'était de lui permettre d'avoir une radiothérapie antalgique qu'elle n'a pas payée, qui a été délivrée à titre gratuit, dans une perspective de retour auprès de sa famille et des siens, au lieu qu'il n'a pas ce qui s'est passé. On lui a fourni le temps nécessaire de traitement antalgique. Alors, je n'ai pas de nouvelles depuis, mais 3 mois après, elle est encore vivante et prenait ce traitement et elle a une vie qui était certainement plus confortable, plus agréable que si elle était restée malouée entre le salut social, les transports et cet isolement. Donc l'idée, c'est cette approche, c'est de prendre en compte des éléments médicaux, mais des éléments extra-médicaux. Et c'est finalement parce que on travaille dans les PAS, on est cloisonnant médico-social, on peut mettre en place une nouvelle réflexion. C'est bien sûr de rechercher l'intérêt supérieur des personnes, et dans les PAS, on peut s'adapter au cas par cas. C'est le Dr Rivière de Montpellier qui a été qui disait, oui, nous on fait du sur-mesure. Et il n'y a que là qu'on peut faire vraiment ce sur-mesure, prendre le temps nécessaire. Ce qui est intéressant, c'est que peut-être, finalement, c'est un modèle applicable à beaucoup d'autres situations. Évidemment, la vulnérabilité, dès qu'on est malade, on est déjà en situation de vulnérabilité. Et puis, l'idée qu'une médecine globale peut être un contrepoids intéressant en collaboration avec une médecine spécialisée, mais un vrai contrepoids d'une médecine globale en contrepoids d'une médecine de plus en plus technique et spécialisée à l'hôpital. Et donc, l'idée, c'est aussi d'associer l'intérêt supérieur des personnes et en ayant en arrière-pensée aussi l'intérêt de la dimension collective et de rationaliser ainsi les dépenses de santé, donc de faire rejoindre l'éthique et le médico-éthique. Je vous remercie.